Alors nous continuons en effet l'étude du livre des juges. Je voudrais vous inviter à la prière pour que Dieu nous aide à nous concentrer sur ce passage et sur son enseignement. Père Céleste, c'est toi qui nous as donné la parole. Tu veux te révéler à chacun de tes enfants, afin que nous te suivions, que nous comprenions le sens de notre vie, que nous comprenions davantage qui tu es et à quel point nous te devons toutes choses. Seigneur notre Dieu, que ce cantique dans ta parole nous aide à nous rendre compte pour quelles raisons nous devons chanter. Et que notre cœur, nous te prions, soit rempli par ton esprit pour comprendre, mais aussi retenir et mettre en pratique. À la gloire de Jésus-Christ. Amen. On nous apporte les salutations de l'Église évangélique d'Aix-en-Provence, l'Église évangélique libre. Mon épouse est de service avec les enfants de l'école le dimanche ce matin, donc elle n'a pas pu m'accompagner, mais nous pensons à vous et votre communauté ici, aussi dans nos prières. Alors, j'étais un peu troublé dans la suite de l'étude du livre des juges ce matin parce que il y aurait tellement de choses à présenter, à discuter dans ce cinquième chapitre du livre des juges, qu'il a fallu faire un choix. En réalité, si vous lisez ensemble les deux chapitres 4 et 5 de ce livre, vous avez toute l'histoire, tout ce que le livre des juges nous donne sur Déborah et Barak. Barak, donc, un des juges, un des 12 juges mentionnés dans le livre des juges. Et vous avez des versions très complémentaires. Donc j'aurais pu présenter le cinquième chapitre en disant voilà la deuxième version de l'histoire, ça comble quelques trous. Et c'est vrai, dans le récit de la grande bataille du chapitre 4. Ça permet de voir aussi qu'il y a sans doute deux étapes à cette bataille et pas une seule. Et ça permet aussi de comprendre comment la petite armée d'Israël, sous les ordres de Barak, a pu vaincre 900 chars. La dernière fois, j'avais comparé ces chars à des chars d'assaut, puisque pour les Israélites, qui n'avaient pas beaucoup d'armes, et peut-être pas du tout d'armes en fer, eh bien, les chars, les 900 chars de l'armée de Sisera, l'ennemi, était plus que redoutable. En fait, il était impossible de tenir, hein, normalement, dans une plaine, devant ces chars. Seulement, Dieu a donné un orage et l'inondation. Les chars se sont embourbés, et celui qui conduit le char est, à ce moment-là, tout à fait vulnérable aux fantassins qu'étaient les Israélites. 900 chars immobilisés, ben, ça fait pas une grande force. Enfin, il y a plein d'autres détails qui sont clarifiés par ce chant et nous comprenons que finalement Dieu enracine sa parole dans l'histoire, mais que les détails historiques ne sont pas ce qui est le plus important. Le détail historique est important quand il nous instruit pour en vue du salut, en vue de connaître Dieu. Et donc, sont inclus les détails qui nous aident à avancer dans la compréhension de sa parole. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur ce qui est un cantique, un des grands cantiques de l'Ancien Testament. Le premier verset l'annonce déjà. En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Déjà un miracle en soi. Imaginez, hein, c'est comme si on disait qu'une Marseillaise chante avec un Parisien en harmonie parfaite, puisque Barak vient du nord, du Grand Nord, alors que Déborah, elle est située dans le sud du pays. Et déjà, entre les clans, les tribus, c'était pas toujours la paix. Mais là, c'est une preuve de plus que Dieu était à l'œuvre. Alors, lirons la suite, ou plutôt, les lecteurs désignés liront la suite à différents moments de ce message. Mais d'abord, posons une question. Est-ce que nous, chrétiens du 21e siècle, nous ne pourrions pas trouver plutôt gênant, parfois, qu'il se trouve dans la Bible des chants de victoire? Je veux dire, des chants qui fêtent une victoire militaire, qui célèbrent la mise à mal de l'ennemi, voire sa destruction totale, qui se réjouissent du courage des soldats, qui se réjouissent du butin emporté. Lorsque nous lisons un chant comme cela, et le texte de ce jour, dans ce cinquième chapitre des Juges, en est un, est-ce que nous avons peut-être parfois tendance à dire « Oui, c'est normal, c'est le temps de l'ancienne alliance, les croyants de l'époque n'avaient pas encore reçu le message d'amour et de paix de Jésus-Christ. Ils étaient un peu plus primitifs, un peu plus sanglants que nous. » Mais si c'est là notre réaction, nous devrions peut-être relire certains textes bibliques. Par exemple, le chant de Marie, en Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Car ce chant de louange et de reconnaissance comporte des éléments du chant de victoire, notamment le cri de triomphe sur les méchants vaincus. Le chant de Marie peut d'ailleurs nous mettre sur la piste d'une meilleure explication des chants de victoire, dont les exemples les plus connus en dehors du chant de Déborah et de Barak serait sans doute le chant de Moïse en Exode 15, après la défaite des Égyptiens à la mer Rouge, ou bien le chant de David en 2 Samuel chapitre 22, quand il était délivré de tous ses ennemis. Le chant de Marie est clairement un chant qui met Dieu à la première place, qui incite donc les chanteurs ou auditeurs à se tourner vers lui. Quand on y pense, bon nombre de nos cantiques d'église font la même chose, plusieurs des chants que nous avons chantés ce matin. Et sont ces chants-là que nous chantons, à proprement parler, des chants de victoire. Ce qui nous gêne, nous, dans les chants de l'Ancien Testament, c'est peut-être le type de victoire. Le fait qu'il y ait dans l'histoire un vaincu bien humain et souvent bien mort. Nous comprenons qu'il est très humain de fêter la victoire, mais nous nous posons la question si c'est bien chrétien. Tout dépend. Et c'est ce que le cantique ici nous apprend. Tout dépend de l'attitude du chanteur. Et le chant du livre des juges nous révèle bien l'attitude qu'il faut avoir. Lisons d'abord quelques extraits. Alors j'aurais pu les regrouper de différentes manières parce que il faut aussi vous rappeler, ou nous rappeler, nous qui lisons en général la Bible en français ou en anglais, je ne sais pas s'il y en a qui lisent ici en hébreu. Il y a quelqu'un qui lit en hébreu? Non, personne ne lit en hébreu. Nous ne nous rendons pas compte, donc le chapitre 4 est un chapitre qui est rédigé en prose, alors que chapitre 5 est rédigé entièrement en vers. Hein, c'est de la poésie. Et c'est organisé comme un poème avec des équilibres. Donc moi j'ai choisi dans les lectures de l'aborder par les thèmes, les différents thèmes qui sont abordés, mais si vous lisez après, je vous invite à le lire en entier après tout ça à la maison, vous verrez qu'il y a en fait trois grandes sections où on fait des contrastes. Le premier contraste qui est entre la grandeur de Dieu et la faiblesse, la pauvreté du peuple. Ensuite, il y a un contraste entre les courageux, les hommes de foi qui répondent à l'appel de Dieu, et les lâches et les poltrons qui ne répondent pas. Et ensuite, il y a un troisième contraste entre deux femmes. Hein, c'est un passage chanté, enfin composé manifestement par Déborah, chanté par Déborah et Barak, mais elle termine son chant sur un contraste entre deux femmes, entre les deux femmes, Yaël et la mère de Sisra. Et donc, tout l'ensemble du chant est construit sur ces trois contrastes. Mais nous allons regarder plutôt par thème ou par les enseignements principaux de ce qui doit se trouver, je pense, dans un chant de victoire. Alors, je voudrais inviter, je ne sais pas qui c'est qui lit, la première, c'est Bernardo qui lit, donc il va lire donc les passages sélectionnés sur le premier thème, donc c'est les versets 3 à 5, le verset 11, les versets 20 à 22 et le verset 31.
Alors, roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs des dons, la terre trembla et les cieux s'effondirent et les nuées s'effondirent en haut. Je passe au verset 11. Que de leur voix des archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Passe au verset 20. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Les torrents des Kisson les a entraînés. Le torrent des anciens temps, les torrents de Kisson, mon âme foule aux pieds des héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Je passe au verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans.
Oui, c'était surtout la première partie du verset 31. La conclusion, c'est comme la conclusion de beaucoup de chapitres dans le livre des Juges qui raconte la suite de l'histoire de ce juge ou ce qui a suivi sa victoire. Alors, les gestes de victoire que nous voyons, nous, 21e siècle, les plus courants sont quel type de gestes? Surtout associés au sport. Hein, je suis sûr que là, hein, si je demandais à certains qui sont fanats de tennis, par exemple, hein, qu'est-ce qu'ils font quand ils gagnent un point, hein, Lucas? Hein, allez, montre un petit peu là à l'assemblée. Ouais. Exactement, ce type de geste là. Ou alors les footballeurs lorsqu'ils marquent un but, qu'est-ce qu'ils, hein? Tout, oui. Ah, il y en a qui font toutes sortes de choses. Hein, le célèbre geste de Thierry Henry là, qui allait toujours au poteau, au coin, et qui sonnait comme ça contre le poteau. Vous avez vu là certains qui vont se montrer à la foule et qui font comme ça, hein, hein, qui tirent sur le maillot. Ce type de geste. Alors, on connaît ces gestes-là. Parfois, surtout au tennis, parce que avant l'arrivée de ces sportifs très agressifs que sont les tennismans d'aujourd'hui, j'avais toujours pensé que le tennis c'était un sport de gentleman, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plutôt des qu'est-ce qu'il faut dire, des grands violents. Mais en tout cas, tous ces gestes-là ont quelque chose en commun. C'est que, avant tout, c'est le sportif lui-même qui a marqué le point, qui a marqué le but, qui a gagné le match, qui est mis en avant. Il semble vouloir dire, regardez-moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai gagné, je l'ai eu. Je suis le plus fort. Parfois, évidemment, lorsque c'est un jeu d'équipe, peut remplacer le jeu par nous, hein, mais bon. C'est la même attitude. Or, Déborah et Barak, quand ils chantent, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quel geste correspondrait le mieux à leur chant, à ce chant, hein, dont nous venons de voir quelques extraits que Bernard nous a lus? Eh bien, les gestes seraient plutôt ça, n'est-ce pas? Ou peut-être ça? Pour nous aujourd'hui, les gestes qui accompagnent ce chant, ce ne serait pas du tout ça. Ni, regardez-moi, mais je reconnais d'où vient la victoire. Il y a parfois, c'est rafraîchissant, surtout, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'équipe de football du Brésil, il y a des Brésiliens qui prient quand ils marquent un but. Parce qu'il y a des chrétiens dans leur équipe. Il y a sans doute d'autres équipes aussi, mais j'ai remarqué avec eux. Mais c'est intéressant. Évidemment, il ne faut pas en faire une ostentation peut-être, mais au moins, ils n'attirent pas l'attention vers eux. Donc nous avons ici le premier enseignement de ce chant de victoire. C'est que il est là pour nous rappeler ce chant que la victoire appartient à Dieu. C'est lui qui est souverain, lui qui est tout puissant. Ici, c'était une bataille qui l'a marqué particulièrement. Lorsque nous parlons de batailles célèbres, hein, je pense que la plupart des enfants, et puis même nous, quelque part, une bataille mentionnée plus souvent, la bataille biblique, c'est David-Goliath. Alors, nous pouvons dire que David, adolescent, berger, sans armes, sinon sa fronde, il n'avait aucune chance. Mais s'il était orgueilleux, il aurait pu dire à la fin, je me suis bien entraîné, je sais bien viser avec la fronde, c'est normal que je gagne. C'est pas comme ça qu'il est allé à la bataille cependant. Mais on pourrait l'imaginer, ici, impossible. Dans cette bataille, on ne peut pas voir d'autres victoires possibles. Le chant que Bernard vient de lire dit même les astres. On comprenait quelque part que les planètes avaient leur rôle dans les changements climatiques, déjà à l'époque, apparemment. En tout cas, il voyait bien que la victoire venait des cieux. Dieu a fait tomber des trombes d'eau sur le champ de bataille. Le torrent, qui était peut-être à sec ou qui était un tout petit torrent, est devenu un flot qui a emporté les cavaliers, qui a empêché les chars d'avancer. La victoire était clairement la victoire de Dieu. Il n'avait pas grand-chose à voir avec le peuple. Enfin, si, le peuple avait son importance. Mais c'est Dieu qui avait la victoire. C'est donc le premier enseignement. Le mot « rappeler » est un mot-clé dans ce chant de victoire. Car la forme même du chant, que, comme je vous l'ai dit, nous avons du mal à apprécier dans nos traductions, est utilisée pour que les membres du peuple de Dieu puissent facilement retenir toutes les paroles, tout le message par cœur. N'oubliez pas que pour eux, c'était très difficile de rédiger. Donc, ils entendaient une ou deux fois ce chant et puis ils le connaissaient par cœur. Alors, s'ils le retiennent par cœur, eh bien, ils ne vont pas oublier ce que Dieu vient de faire. Ils ne vont pas oublier que c'est à Dieu qu'ils doivent la victoire. Dans le fond, nos cantiques d'église, quand ils chantent la victoire, et c'est souvent le cas, font évidemment la même chose. Mettant Dieu à la première place et nous laissant un texte que nous ne devrions pas oublier. Je suppose que l'un des cantiques dans nos milieux, et peut-être parmi bien d'autres milieux chrétiens, nous connaissons, c'est « À toi la gloire, à toi la victoire », avec des paroles qui sont si faciles à retenir et qui ont résonné partout dans le monde et qui rappellent exactement la même chose, que la victoire n'est pas à l'homme, mais à Dieu. Certains hymnes nationaux, qui sont des sortes de chants de victoire, attribuent également cette victoire à Dieu. Même la Marseillaise veut attribuer la victoire à quelqu'un de plus grand que le peuple français, mais malheureusement ne peut admettre la souveraineté ou le règne de Dieu, ou si ses auteurs ont-ils opté pour une personnification de l'amour de la patrie, ou alors la liberté. Et là, donc, on attribue la gloire de la France à des abstractions, à la liberté, à des inventions humaines, finalement. Le chant de victoire est donc un mémorial, rappelant l'œuvre de Dieu, orientant la louange là où la louange est due. C'est pour la raison pour laquelle le chant de victoire doit susciter pas du tout l'orgueil, mais au contraire l'humilité. Pas du tout l'arrogance, mais surtout la reconnaissance. Mais ce n'est pas tout. Ce chant dont on se souvient précisément parce que c'est un chant, comporte encore d'autres leçons. Qu'il est tout aussi essentiel qu'un membre du peuple de Dieu retienne dans sa vie. Le chant s'adresse directement au peuple, pas uniquement à Dieu donc. Et ce chant, s'adressant au peuple, exhorte ce peuple, mais aussi le reprend. Alors, on va commencer avec notre deuxième lecteur par le côté positif, par les exhortations et les encouragements. D'abord le verset 2. Alors, je ne sais pas qui c'est qui lit, c'est Anne qui lit. Peut arrêter un instant, hein. Ce verset, laisser flotter les chevelures, est-ce que quelqu'un sait l'expliquer? On a laissé flotter les chevelures en Israël. Hein? Ça fait penser à Samson, oui, en effet, oui. Alors c'est une sorte de tradition, lorsque, vous savez que Samson, il portait les cheveux longs parce qu'il était nazirien depuis sa naissance, et donc lorsqu'on avait fait un vœu pour servir Dieu, on ne se coupait pas les cheveux. Et donc, évidemment, sa force n'était pas dans ses cheveux, mais lorsqu'il laissait couper les cheveux, ça voulait dire qu'il n'était plus consacré à Dieu. Et donc, sa force l'abandonne. Eh bien, l'habitude, lorsque les Israélites savaient qu'ils allaient affronter la bataille, eh bien, les hommes ne se coupaient plus les cheveux en attendant cette période. Et donc ils allaient à la bataille, ils détachaient leurs cheveux, donc leurs cheveux étaient un peu plus longs, et les cheveux flottaient dans le vent parce que c'était pour annoncer que la victoire, déjà dans la bataille, était dédiée à l'Éternel. Et donc voilà l'armée qui avance, et les hommes ont, je ne sais pas quelle était la longueur des cheveux, mais les cheveux qui flottaient dans le vent. Merci Anne. Versets 9 et 10.
Bénissez l'Éternel. Vous tous qui chevauchez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis et vous qui parcourez les chemins, pensez-y. Debout, éveille-toi, Déborah intervient. Debout, éveille-toi, entonne un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène les captifs au fils d'Abinoam. Voici qu'un faible reste a triomphé des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Ceux qui ont vaincu Amalek sont sortis d'Éphraïm. Benjamin t'a suivi, il est parmi tes troupes. De Makir sont venus ceux qui ont commandé, et de Zabulon ceux qui tiennent le bâton de commandement. Les princes d'Issacar ont rejoint Déborah, et toute sa tribu, sur les pas de Barak, s'est précipitée dans la plaine.
Et ensuite, au verset 18.
Zabulon est un peuple qui a bravé la mort, et Nephtali aussi, sur les hauteurs, dans la campagne.
Merci. Vous voyez, hein, c'est un des détails qui est complété du chapitre 4. Au chapitre 4, hein, on n'avait que deux tribus qui étaient mentionnées. Et là, il y en a, je ne sais pas si vous avez fait le compte, hein, il doit y avoir 6, je pense, 6 tribus qui sont mentionnées, qui sont venues à l'appel de Barak, lorsque Barak a sonné l'appel. Dans ces versets donc, la joie des chanteurs, que sont Barak et Déborah, n'est plus provoquée directement par les exploits terrifiants et merveilleux de du Dieu créateur, Dieu de l'Alliance, mais sont réjouis par les réactions de son peuple, qui réagit bien à son appel. Car l'une des choses les plus étonnantes concernant le grand Dieu souverain, le Dieu qui donne la victoire, c'est qu'il associe son peuple à sa victoire, qu'il décide de passer par le canal de la foi d'un peuple dont la qualité la plus remarquable est sa faiblesse. D'abord, c'est donc la foi même, au verset 2, qui pousse les chanteurs à louer Dieu. Le vœu de se consacrer totalement à Dieu, le don de soi, sans réserve, donc ses cheveux qui flottent dans le vent, hein, qui disent « Je me donne à Dieu ». Ensuite, quand nous sommes prêts à nous oublier, à abandonner nos craintes, abandonner aussi parfois nos conforts, notre égoïsme, nos soucis personnels, alors Dieu est prêt à se servir de nous et tout devient possible. Aussi, les tribus qui ont répondu à l'appel sont nommées avec joie et avec des félicitations. Et le chant n'oublie pas que des hommes de toute catégorie sont concernés par cet appel à la foi. Hein, au début, vous avez vu les hommes sur les ânesses blanches, ensuite ceux qui sont sur les tapis, les ânesses blanches, hein, c'est les chefs sur les tapis, ce sont les commerçants, vous qui parcourez les chemins, les voyageurs, ou les hommes dans les villages, ce sont les ouvriers. Les différentes catégories sont toutes mentionnées. Si, donc, au début, les chefs sont bénis en premier pour leur obéissance prompte, sans eux, en effet, le peuple aurait manqué de conducteurs et d'exemples, au verset 11, c'est surtout la victoire des paysans, des villageois, qui est placée à côté des bienfaits de l'Éternel. La foi, le courage et l'énergie de ces petits agriculteurs, voilà la force que Dieu peut employer. Mais, si ce chant doit rappeler aussi que Dieu se sert de nous, de ses serviteurs, de la foi de son peuple, eh bien, il ne peut pas non plus manquer de souligner les conséquences de l'absence d'une telle foi, lorsque la foi n'y est pas. C'est, comme Paul l'a rappelé tout à l'heure, manière de l'enseignant peut-être, mais c'est la manière classique. Hein, il faut dire ce qui est bien, mais il faut aussi dire la conséquence quand on ne fait pas ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous lisons dans deux autres passages, les deux derniers passages à lire, les versets 6 à 9, 15b à 17, et puis le verset 23.
Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées. Jusqu'à ce que je me sois levée, moi Déborah, que je me sois levée comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. Voyait-on un bouclier, une lance, aux 40 milliers en Israël? Mon cœur va aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel. Le 15 à 17. Les princes d'Issacar furent avec Déborah.
Issacar, c'est uniquement la deuxième moitié du chapitre, du verset 15. Donc la fin du chapitre.
Envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté entre deux parties, à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, y est resté. Pourquoi Dan a-t-il eu le domicile sur des navires? Aser est assis au bord de la mer. Il est resté sur ses brisants. Le 23. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas à l'aide de l'Éternel. À l'aide de l'Éternel parmi les Hébreux.
Merci. Au début, donc, nous avons une description. Le premier passage lu, c'est une description du triste état du pays dans lequel la foi fait défaut. Tout le monde a peur. Des commerçants et voyageurs ne connaissent aucune sécurité. On n'utilise pas les routes principales. On essaie de se cacher parce que rien n'est sûr. Les villages sans murailles sont abandonnés. Tellement le danger est grand. C'est pas la peine de rester dans un village sans murailles. On sait qu'on va être victime des bandes, entre autres les bandes cananéens, qui rôdent. La guerre est aux portes. Et pas seulement la guerre physique. On devrait y penser. Soucis. Dépression, colère, désaccord avec les proches, énervement, manque de respect, absence d'autorité, moquerie. Tout cela est conséquence de l'absence du foi. Lorsque la foi vient à défaillir, eh bien le pays est dans un triste état. Et vous avez remarqué le détail concernant les armes? Combien d'armes en Israël pour des milliers, les 40 milliers d'Israélites, eh bien, ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Où sont les armes? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait absolument pas d'armes en Israël, mais qu'ils les avaient cachées et qu'ils n'osaient pas les sortir. Ça coûtait de sortir les armes et d'aller se battre. Donc, ce passage devrait nous parler beaucoup. Ce premier passage. Si nous prenons le temps de jeter un regard sur l'état de notre pays. Est-ce que d'autres dieux nous ont pas enlevé ou diminué la foi? Ne nous ont-ils pas réduits à la sécurité relative de la passivité? On cache nos armes. Combien d'armes y a-t-il pour 40 000 chrétiens en France aujourd'hui? Le chant de victoire est un puissant encouragement pour nous et parfois aussi une forte réprimande. Nous ne devrions négliger aucun de ces aspects. Je rappelle que dans son chant, Déborah met son doigt sur l'origine de ce manque de foi. Lorsqu'elle dit, le peuple d'Israël, au verset 8, le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux. Lorsqu'on commence à placer sa foi, à placer la chose la plus importante de sa vie ailleurs qu'en Dieu, eh bien la foi disparaît et on n'est plus prêt à faire la guerre contre l'ennemi. La deuxième remarque, donc après cette introduction de l'état du pays, la deuxième remarque concernant cette absence de foi vise des groupes spécifiques. Parmi les 12 tribus d'Israël, 6 sont venues à l'appel. On suppose, puisqu'ils ne sont pas mentionnés, que Séméon et Juda sont trop loin, ils sont tout au sud du pays, et donc les distances, on ne pouvait pas parcourir forcément toute la distance pour venir au pays. Peut-être que même l'appel n'est pas parvenu jusqu'à eux, donc ils ne sont pas critiqués. Par contre, tous ceux qui étaient à portée de voix en quelque sorte, qui étaient dans la région, mais qui ne sont pas venus, sont mentionnés. Ruben, Gad, Dan et Aser ne se sont pas présentés. Ils n'ont pas voulu se déplacer pour se joindre aux troupes d'Israël. Ils sont un peu plus éloignés du danger. Alors, ils oublient leur fidélité à l'Alliance et ne répondent pas à l'appel. N'oubliez pas que tout le peuple est au bénéfice de l'Alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec tout le peuple. Ça signifie que le peuple est un peuple. Et donc, il y a aussi alliance entre eux, de ce fait, une responsabilité mutuelle. Ils sont donc, dans ce passage, fortement critiqués. Leur attitude, dit Déborah, n'est pas normale. Ces versets devraient être pour nous aujourd'hui une puissante exhortation à nous préoccuper de notre côté, de nos sœurs, de nos frères dans la foi, où qu'ils soient, car nous sommes liés, nous aussi, à eux, par une alliance, et devons demander à Dieu comment nous pouvons intervenir au mieux. Parfois, ce sera uniquement la prière, parfois, d'autres formes d'intervention sont nécessaires. Quant à Méroz, le dernier verset lu, Méroz est manifestement une ville, un village qui est tout près de la bataille, mais où tous les habitants sont restés planqués. La bataille faisait rage tout autour, eux se sont cachés et personne s'est présenté au combat. À côté du champ de mission, champ de bataille, peut-être à côté du chantier, cette ville a fait l'autruche. Les autres peuvent bien s'en occuper. Moi, je reste tranquille. Je me repose sur mon canapé et j'attends les nouvelles. Cette attitude est à l'opposé de la foi. Et la malédiction qui tombe sur Méroz et le rappelle que leur propre attitude a fermé la porte à la bénédiction de Dieu. Méroz, dans ce village-là, eh bien, les gens n'ont pas pu participer à la fête de la victoire que nous avons dans ce chapitre 5. Alors, à Dieu la victoire, félicitations à ceux qui répondent à un Dieu fidèle et vainqueur, malédiction à ceux qui ne répondent pas. Et quoi d'autre? Vous avez pensé peut-être que je voulais surtout éviter de parler du dernier passage. Hein, on ne l'a pas vraiment lu ensemble. Hein, ce dernier passage qui parle de deux femmes. Yaël et la mère de Sisera. Quelque part, le dernier verset, le verset 31, explique quand même le sens. Il devrait nous faire réfléchir. Que tous tes ennemis périssent de la sorte. On ne se réjouit pas de la souffrance d'un homme, mais on se réjouit de l'élimination du mal. Ce n'est pas tant la mère de Sisera qui est appelée à souffrir, mais elle est à sa fenêtre. Vous lirez le passage après. Attendre son fils qui est revenu de tant de batailles avec des cadeaux pour elle, parce qu'il y avait beaucoup de butin après les batailles, et elle est sans doute avec le harem de son fils. Les femmes qui sont autour d'elle font partie sans doute du harem. Et puis, il y a là donc le rappel que lui a tyrannisé le pays et elle s'en réjouit. Même, alors c'est peut-être pas forcément pour toutes les oreilles, mais lorsque nous lisons au verset 30, sans doute, et c'est donc sans doute les femmes, les, probablement plusieurs femmes de Sisera qui sont en train de parler à la mère, sans doute ont-ils trouvé un butin abondant et cela partage. Bon, butin, ça veut dire victime morte, hein, parce qu'on lui arrache ses vêtements, etc. Et ensuite, hein, on s'en va piller tous les villages qui sont laissés sans les hommes, sans les soldats, qui sont sans défense. Pourquoi ? Il tarde à revenir parce qu'il est en train de massacrer. Mais pas seulement ça. Voilà une femme qui dit une fille, deux filles pour chaque combattant. Ça ne veut pas dire des servantes. Hein. Ça veut dire je viole, tu violes. Ils vont dans les villages, les soldats de l'époque, comme dans certaines guerres que nous entendons parler, nous, en Afrique ou en Asie ou au Moyen-Orient aujourd'hui. Et puis les femmes, eh bien, ce sont les victimes. Et d'après ce que le commentateur m'explique sur l'hébreu, en fait, ce n'est pas une fille ou deux filles qui est mentionnée, mais c'est un vagin ou deux vagins. C'est-à-dire, combien est-ce que je viole ? Donc, voilà la mère de Sisera qui est en train de se dire, oh bah oui, il est un peu en retard parce qu'il est en train de violer quelques femmes. Ça nous enlève quand même un petit peu la compassion qu'on peut avoir pour une mère qui a perdu son fils. Et ça rappelle que le peuple ne se réjouit pas de la mort d'une femme, ou de la tristesse d'une femme, ou de la tragédie d'une femme. Le peuple se réjouit parce que ce mal-là a été stoppé. Et c'est ça que nous devons, nous, retenir de ce passage. De même Yaël. Yaël. Comment est-ce que nous interprétons Yaël ? Dans le chant, elle est nommée un peu comme Marie, d'ailleurs, que j'ai mentionné au début du message. Hein? Une femme bénie, bénie, une femme bénie parmi les femmes. Alors, c'est quoi, Yaël ? Une femme prudente ? Ou une profiteuse ? Courageuse, habile ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui discerne les temps et les saisons ? Qui possède l'opportunisme de la foi. Relisez son histoire. Elle accueille Sisera, elle sait très bien qui c'est. Elle fait partie d'un peuple, elle n'est même pas israélite, hein, Yaël. Elle fait partie d'un peuple qui est allié, on va dire. Hein, une des tribus hein, qui s'est fait allier d'Israël, les Kénites. Et elle accueille. Il lui demande de l'eau, elle lui donne de la crème. Elle le traite en roi. Et elle l'endort tranquillement dans ce qui doit lui servir sans doute de chambre, hein, dans sa tente, puisqu'ils vivent, ce peuple-là, hein, c'est un peuple nomade, donc ils vivent sous des tentes. Et une fois endormie, eh bien, courageusement, tant même, je suppose que son mari, il est soit en train de participer à la guerre, soit il s'occupe des troupeaux, il est loin. Elle est toute seule, elle prend un maillet, un pieu, et elle l'exécute. Bon, je ne sais pas, hein, il y a plusieurs femmes ici dans l'assemblée aujourd'hui, je ne sais pas, même, hein, Sisera est un guerrier, il est armé, il sait se battre, il dort, sans doute, il a l'habitude de dormir un œil fermé seulement. Elle prend des risques quand même, cette femme. Elle prend son pieu, elle sait que pour le pays, pour Israël, pour le peuple de Dieu, c'est pour le bien de ce peuple que cet homme-là soit éliminé. Et elle exécute, courageusement, avec traîtrise, on dirait. Mais ce n'est pas forcément la traîtrise, la méthode. Nous l'avons vu avec Ehud, lui aussi a vaincu par traîtrise. Dieu sait s'accommoder de la faiblesse de son peuple. Ce qui est remarquable ici, c'est que Dieu intègre une femme comme ça, qui sait réagir imparfaitement par la foi. Mais est-ce que nous avons toujours réagi parfaitement dans notre foi ? Elle réagit imparfaitement, mais ça fait avancer le plan de Dieu. Pensez à une autre femme de cette période, un peu avant, dans l'histoire de Josué. Rahab, vous avez tous entendu parler de Rahab. Est-ce qu'on peut recommander Rahab ? C'est une prostituée. Je ne pense pas que Dieu nous recommande la prostitution. Et pourtant, elle est parmi les héros de la foi dans le Nouveau Testament. Parce qu'elle a su réagir. Dieu a su transformer ce cœur. Et elle, dans toute l'imperfection, l'imperfection de la vie qu'elle menait, eh bien, elle a reconnu quel était le plan de Dieu. Et elle a placé son sort, finalement, au sein du peuple de Dieu, et non pas dans la vie qu'elle menait. Quant à la mère de Sisera, eh bien, la compassion de Dieu est sévère dans ce cas-là. Certains pourraient dire cyniquement, si Déborah se réjouit de cette façon-là, c'est la simple preuve, hein, nous avons une simple preuve ici, que c'est une femme qui rédige le chant. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que tout simplement, nous avons le rappel ici, ou l'annonce ici, de la fin du chapitre, de ce verset 31. On peut choisir de s'opposer à Dieu. C'est le cas de Sisera, de Jabin, de l'armée des Canadiens. On peut avoir l'air de l'emporter pendant un temps, mais la fin. Et c'est pour cela qu'il faut décrire la désolation de la mère de Sisera. Sa désolation, c'est la fin. C'est ce qui arrive à celui qui s'élève contre Dieu. Il peut l'emporter pendant un certain temps. Il peut avoir l'air de fêter la victoire, de dominer sur le peuple de Dieu. Mais la fin, c'est cette désolation-là qui est décrite un peu dans le détail. C'est ce chagrin, la destruction, la tragédie, la mort. Voilà la fin de ceux qui s'élèvent. Je voudrais, pour conclure justement, le rappeler au moyen d'un psaume. Hein. Les psaumes ont été évoqués là tout à l'heure. On va prendre la fin, ou un court passage d'un psaume que vous connaissez. Le psaume 73. C'est un psaume très connu où le psalmiste réfléchit à la question de ces méchants comme Sisera qui triomphent, qui ont l'air de triompher pendant longtemps. Eh bien, au verset 16, nous disons, « Je me mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre pourquoi les Sisera triomphent. Je trouvais tout cela bien trop injuste. » Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits. C'est l'épouvante qui les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil. Ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. On peut pratiquer le mal, mais il y a un coût. On peut avoir l'air de triompher, mais la fin, c'est la victoire de Dieu, par laquelle nous avons également commencé ce chant. Ô Éternel, que tes ennemis périssent de la sorte, et que tous ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand tout éclatant, il se lève. On aurait peut-être, nous, du mal à formuler la prière ainsi, que tous les ennemis périssent de la sorte. Mais est-ce que vous vous rappelez que Jésus a résumé cette prière dans la prière qui nous enseigne? Lorsque nous disons au Seigneur que ton règne vienne, c'est exactement cette prière, que tes ennemis périssent, que ceux qui t'aiment soient comme le soleil. Dans le règne de Dieu, c'est ce qui va arriver. Mais les ennemis n'y seront pas. Nous prions la même chose, pas pour que des gens souffrent, mais pour que la justice règne. Je vous invite à prier. Nous savons, Seigneur, que la victoire est à toi. Nous sommes émerveillés de découvrir que tu veux te servir de nous, faible instrument, faible canot, pour accomplir ta victoire. Tu associes un peuple faible. Garde-nous, nous te prions, de vouloir éviter d'être appelés. Garde-nous, Seigneur, de nous attacher à nos conforts et à notre passivité plutôt que d'agir lorsque tu nous appelles. Et fais-nous comprendre, ô Seigneur, quelle action, par ta force, par ta puissance, est possible pour ton peuple aujourd'hui. Et Seigneur, nous prions ensemble pour que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, le roi. Amen.